Nous allons continuer cet après-midi notre étude de ce matin sur le Saint-Esprit dans le ministère et dans l'enseignement de Jésus-Christ. Auparavant, je voudrais appuyer ce que nous disions tout à l'heure là dans le hall et ce que nous venons de chanter, ta parole est la vérité, c'est vrai, le Seigneur l'a dit. Mais dans le hall, quelqu'un disait, oui, mais dans un faux document, comme par exemple le livre de Rebecca Brown, il y a une part de vérité. Alors je dis non, il n'y a pas une part de vérité. Il est vrai que Satan se déguise en ange de lumière, il ne vient pas toujours avec le mensonge, vraiment le cœur du mensonge, mais il vient se déguisant en ange de lumière. Et je disais, même cette partie lumière venant de l'ennemi n'est pas la vérité. Et je donnais comme exemple ceci, la tentation du Seigneur Jésus. Dans la tentation, Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Bon, alors, ce qui est vrai, c'est, tu es le Fils de Dieu. Mais si tu es le Fils de Dieu, ça n'est pas vrai. Parce que ça ne pose pas de question. Ça ne pose pas de question. Et puis, quand le diable propose à Satan de se jeter, propose à Jésus de se jeter du point élevé où il l'avait conduit dans le haut des portiques du temple, là, de se jeter de haut en bas, lui citant l'Écriture et lui disant, les anges, il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas, que tu ne te fasses pas du mal, tu vas arriver en bas sans dommage et comme cela, tu auras montré que tu es le Fils de Dieu. Bon, cette citation, on pourrait dire, hein, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. C'est bien une citation textuelle, en partie, tout au moins textuelle, mais elle n'est plus la vérité parce qu'elle est assortie d'une fausse intention, d'une mauvaise intention, d'un esprit de mal. Donc, attention, ta parole est la vérité. Condition que cette vérité soit dite et soit reçue dans l'esprit de foi et d'amour. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour que la parole soit la vérité, il faut la recevoir dans un esprit d'amour. Voilà. Ceci étant dit, nous allons lire dans Jean, Évangile de Jean, 14. Évangile de Jean 14, verset 15. Nous avons un passage magnifique ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Notons bien, un autre consolateur. Quel est-elle le premier consolateur? C'est Jésus. Et vous savez que Jésus est appelé en effet consolateur, c'est-à-dire, prenons le terme grec, parakletos, ou on en a fait un terme français, paraclé. Alors, il est vrai que Jésus va envoyer un autre consolateur, un autre parakletos, c'est le Saint-Esprit. Mais le premier parakletos, c'est lui, et il est appelé de ce nom-là, parakletos, dans l'épître aux Hébreux. Lui qui intercède pour nous, Jésus reçoit là cette désignation aussi de parakletos. Alors on comprend pourquoi ici Jésus dit, il vous donnera un autre parakletos que moi-même. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous donnera un autre Consolateur. C'est le don majeur, le grand don. Vous me direz, mais le don principal, c'est le don de la vie. Bon, mais bien sûr, le Seigneur a bien dit à ses contemporains, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Bon, donc, le grand don, c'est le don de la vie. Mais il n'y aurait pas de don de la vie s'il n'y avait pas le don du Saint-Esprit, le don du Paraclétos. Donc, c'est un don majeur. Et ce don est la source de toutes les autres possessions qui nous seront accordées. Je rappelle ce que nous avons lu ce matin dans les Proverbes. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le Paraclétos sera en vous, dit le Seigneur. » Et il va là, comme nous l'avons lu dans Jean 4, déterminer une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc il est vrai que de notre cœur, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, de notre cœur viennent les sources de la vie. Nous avons besoin d'une source spirituelle à pied d'œuvre. Et là est un principe constant enseigné dans toute l'Écriture. Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif, vous aurez tout ce qui vous sera nécessaire. Et puis il y a le psaume 87, je n'ai pas cité ce matin, qui dit « Toutes mes sources sont en toi, toutes mes sources, la source de la vie, la source de l'amour, la source de la sagesse, de l'intelligence, la source de la force, toutes mes sources sont en toi. » Alors, au sujet du terme « paraclétos », qui est traduit par « consolateur », lorsque on jette les regards dans un ouvrage assez important, comme le Matthews, par exemple, en 6 volumes, eh bien, on s'aperçoit que paraclétos est difficile à traduire en français, et pour le traduire, il faudrait peut-être employer 8 ou 10 termes, mais tout cela n'est pas absolument indispensable. Je pense que le meilleur terme, paraclétos veut dire non seulement consolateur, consolateur n'est pas très bon. D'ailleurs, ce terme a été puisé de la Vulgate, c'est-à-dire de la Bible en latin. Vous voyez, par nos traducteurs ici. Je pense que la meilleure manière de traduire en un seul terme, on ne va pas aller chercher des quantités de mots, un seul terme, c'est un autre soutien. C'est simple, le mot est simple, un autre soutien. On peut dire aussi un autre défenseur. Un autre soutien. Le mot « autre » opère un rapprochement avec Jésus. Donc Jésus est lui-même, comme je viens de le dire, un soutien, un paraclétos. Un autre soutien qui sera prêt à venir en aide, un soutien vient en aide à tous les vrais enfants de Dieu dans leur lutte avec les difficultés, avec les épreuves, en traversant les épreuves, enfin avec tout ce qui nécessite de la lutte contre le péché lui-même. Le soutien, le paraclétos, sera un soutien dans les moments de faiblesse. Il sera un conseiller au-devant des décisions à prendre. N'oublions pas que le Seigneur Jésus lui-même est vu comme un conseiller. Il a même dit qu'il était notre directeur. Il nous dirige par esprit, bien sûr, par l'esprit. Et il y a en effet des décisions à prendre dans la vie, dans les moments d'abattement, de souffrance, surtout. En définitive, le Paraclétos, le Saint-Esprit, fera, dans la suite des générations de disciples qui vont se succéder, ce que le Maître, lui, le premier Paraclétos, visiblement présent, faisait au milieu des disciples contemporains. Et c'est de la part du Père, nous l'avons déjà souligné, que Jésus enverra le Paraclet. Il viendra et il restera. Il restera. Il est appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, nous l'avons vu là dans le verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et cette expression figure encore au chapitre 16 de Jean, verset 3, « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Hein, pardon. Chapitre 16, c'est un peu... Ah, c'est au chapitre 13, au verset 13, pardon. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité, il faut savoir ce que ces mots signifient. Il faut savoir, dans la méditation, s'arrêter quelquefois aux termes bibliques, sachant bien que les termes bibliques ont toujours, même, bien sûr, ils sont empruntés au langage courant, mais ils ont toujours une couleur particulière. Alors, il faut s'y arrêter. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, selon l'étymologie même des termes employés en hébreu et en grec, la vérité, c'est ce qui est solide, sûr, constant, stable. Voilà. L'idée, donc, de vérité, c'est quelque chose d'indestructible, c'est constant. Ça ne peut pas changer. C'est solide et c'est stable, déjà. Et le contenu de la vérité, donc, est quelque chose d'absolument définitif. Ça ne peut pas varier du tout. La vérité, c'est encore l'action de Dieu à l'égard de l'homme. Quand Dieu agit à l'égard de l'homme, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, cela veut dire aussi ta parole viendra, d'ailleurs dans le chapitre 17 de Jean, c'est bien le sens que ça prend, ta parole viendra pour les situer, pour les établir dans la vérité, parce qu'elle-même, elle apporte la vérité. Donc, action de Dieu à l'égard de l'homme, de la manière dont il est présent et agit dans l'existence de l'homme. À l'égard de l'homme, l'action, donc, de Dieu, présent et agissant dans l'existence de l'homme. Deuxièmement, la vérité, c'est la révélation de l'essence vraie d'une chose. Nous avons dit que la vérité avait cette qualité d'être constante, stable, indestructible. Bon, mais elle est maintenant, nous regardons un peu son contenu. Eh bien, dans son contenu, il y a la révélation de l'essence vraie d'une chose. Quand la Bible nous parle de Dieu, de Jésus-Christ, quand elle nous parle de tout ce qui a été créé, de tout ce que Dieu nous donne ou nous propose, eh bien, il y a une révélation de faits, d'éléments dont l'essence est d'être vrai. Elle est la réalité, la vérité est la réalité qui se découvre pour l'homme. La réalité qui s'ouvre. L'homme ne connaît pas, l'homme dans le monde ne connaît pas la vérité, il ne peut pas la connaître, il ne la connaît pas la vérité. Même si on l'énonçait avec des mots justes, l'homme qui est fermé, dont le cœur est fermé, dont l'esprit est absolument éteint, ne peut pas comprendre la vérité. J'ai à ce sujet eu l'occasion d'assister à des expériences qui m'ont bien montré qu'en effet, la vérité ne peut pas être découverte par des hommes dont le cœur est fermé, qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas. Eh bien, c'était un moment où, dans l'administration où je me trouvais, on avait la direction, la haute direction, nous avait donné pour le personnel des enseignants. Des enseignants. On voulait élever un peu le savoir, le niveau du personnel, d'un certain nombre de fonctionnaires. Et alors, on nous avait donné des instructeurs. Et notamment, un homme qui était d'un grand savoir, agrégé de sciences, qui avait lui-même fait des recherches, préparé un doctorat, etc. Oh, un grand crack, on nous avait pas donné n'importe quoi. Bon, et alors, cet homme avait cru nécessaire pour délivrer son enseignement, pour enseigner nos gens, nous traiter le sujet de l'histoire des idées. L'histoire des idées. L'histoire des idées. Dans le fil des siècles, il y a toutes sortes d'histoires, il y a l'histoire des idées aussi. Alors il traitait de cela. Et il partait bien avant la période, le commencement de notre ère, c'est-à-dire bien avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Bon, il parlait de la philosophie grecque, etc. Bon, je laisse tout ça. Puis, il arrive à un moment, donc, où il entrait dans le temps des évangiles. Alors, ben, il avait lu la Bible, je vous assure, très bien. Très bien. Il savait nous donner le sens d'un mot. Il n'était pas venu, n'est-ce pas, sans une connaissance attentive de la Bible. Il connaissait le Nouveau Testament très bien. Il pouvait même citer un passage du Nouveau Testament. Et alors, il parle de l'histoire des idées. Quelles sont les idées qui prévalaient au moment des évangiles, puis après, un peu plus tard, au moment où l'apôtre Paul enseignait, le Seigneur étant reparti vers le ciel. Et alors, il a commencé à nous donner l'analyse un peu des évangiles. Bon, c'était surtout les choses contingentes qui l'arrêtaient. Bon. Et puis, il arrive aux épîtres de Paul, et là, il a tenté de nous donner le sens général, l'esprit de ça. Ah ! Si vous aviez entendu ça, c'était un beau langage que le sien, mais si vous aviez entendu ça, il n'y avait pas un liard de vérité, il n'y avait pas un grain de la pensée même de l'apôtre Paul. Rien. C'était à côté, tout à fait à côté, il n'y comprenait rien. Il faisait une analyse, l'analyse d'un lettré, n'est-ce pas, mais il n'y comprenait absolument rien. Ça a été pour moi une expérience dont je me suis toujours souvenu, vous voyez, je m'en souviens encore, une expérience déterminante, n'est-ce pas. J'ai dit, vraiment, vraiment, c'est exact. Voilà un homme d'une haute culture, il a relu, il a bien étudié le Nouveau Testament, et il n'y comprend rien du tout. Il est tout à fait à côté. C'est vraiment extraordinaire. Donc ce n'est pas par intelligence d'homme, voyez-vous, que l'on peut pénétrer la vérité. Donc la vérité est une lumière qui tombe sur l'existence de l'homme pour le délivrer du mensonge qui le tient captif. N'oublions pas que le mensonge, c'est une chaîne, c'est un instrument de captivité, comme Jésus l'a dit. Vous avez pour père Satan, et Satan est le père du mensonge. Il parle de son propre fond, il ne se tient pas dans la vérité, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Mais avec son mensonge, il nous enferme dans des chaînes, il met aux hommes des chaînes aux poignets et aux pieds. Et Jésus disait ceci: je dis la vérité, je rends témoignage à la vérité. Ce qui ne signifie pas seulement mes paroles sont exactes. Il ne faut pas comprendre ça. Ce serait alors là, nous, faire du terre à terre, n'est-ce pas? Mes paroles sont exactes. C'est vrai que les paroles du Seigneur sont exactes. Bon, mais ce n'est pas ça seulement qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire seulement je ne mens pas. Je dis la vérité, je ne mens pas. Mais bien plus, il voulait dire ceci: mes paroles sont la manifestation de l'œuvre de Dieu en vous, pour votre bien, pour votre affranchissement. Mes paroles apportent un travail de vie, de vivification en vous. Mes paroles sont la vérité, une vérité qui a du dynamisme et qui travaille en vous. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire. Je lirai là un verset au chapitre 8 de Jean, le verset, l'évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, un petit peu plus haut. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, c'est-à-dire si vous vous maintenez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Voyez le rôle de la vérité, voyez le dynamisme de la vérité. Et puis, je dirais encore ceci sur le compte de la vérité: Jésus est la parole pleine de grâce et de vérité, comme nous l'avons vu ce matin. Jésus est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ne faut pas chercher Dieu à côté et en dehors de lui. Alors méfions-nous de ceux, qu'ils soient présents dans l'Église, dans le rassemblement, ou qu'ils n'y soient pas, qu'ils soient en dehors, enfin ceux qui nous parlent de l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous parler de l'Évangile à bon escient ou à très mauvais escient, souvent. Hein? Eh bien, méfions-nous de ceux qui veulent disserter à côté des paroles de l'Évangile, de la Bible, à côté des paroles. Hein? Et alors, ils disent, oui, Jésus a dit ceci, a dit cela, et alors ils vont nous amener à côté de la parole, à côté de la portée de la parole de Jésus, à côté de son réel contenu. Ils vont chercher à côté, en dehors de cette parole, en dehors de Jésus. Il faut avoir du discernement, chers amis. Je dis ça parce que C'est vrai, il y a des chrétiens, et ça, c'est toujours une chose infiniment attristante, des chrétiens qui disent, oui, mais un tel, il m'a dit que, une telle m'a dit que ceci, que cela, hein. Et puis alors on retient des assertions, des explications qui sont en marge, en dehors de la portée même des paroles du Seigneur, donc en dehors du Seigneur Jésus. Voilà, pour la vérité. Alors, l'esprit de vérité fera pénétrer la vérité en l'esprit du disciple. L'esprit de vérité, c'est lui qui se charge de faire pénétrer la vérité. Ça ne pénètre pas autrement. Le chapitre 2 de 1 Corinthiens nous dit bien que pour ceux qui aiment Dieu, Dieu va par l'Esprit leur révéler jusque des choses cachées, jusque dans les profondeurs, les conduire jusque dans les profondeurs de Dieu. L'Esprit de vérité, c'est lui qui va vraiment nous conduire et nous établir dans la vérité. Il la fera pénétrer. Il donnera à la vérité sa pleine assise. Sa pleine assise, qui ne provient pas nécessairement de l'analyse littérale d'un texte. L'analyse littérale d'un texte, je m'en méfie. Ça peut être utile, mais attention, il faut absolument que nous sentions vraiment l'esprit nous montrer, nous établir dans la vérité. Et c'est tellement vrai, chers amis, que ne sommes pas nous des grands connaisseurs en hébreu, en grec, on se sert un peu du vocabulaire, c'est intéressant, ça nous permet d'avoir assez souvent une meilleure notation de termes ou d'une phrase. Bon, mais enfin, nous ne sommes pas des connaisseurs en hébreu et en grec. Et j'ai remarqué ceci, c'est que assez souvent, le Saint-Esprit, quand on veut méditer avec le désir vraiment de pénétrer, le Saint-Esprit nous montre l'imperfection d'une traduction, un certain passage. Il y a quelques imperfections, il y en a, dans Second notamment. Moi j'ai une Bible où j'ai corrigé pas mal de passages, mais je me souviens que le Saint-Esprit, plus d'une fois, m'a laissé en alerte. C'est pas tout à fait ça. Alors je cherchais, j'ai trouvé dans des ouvrages spécialisés vraiment un sens très différent et qui en effet était celui que l'Esprit m'avait montré. L'Esprit m'avait montré le sens véritable, en marge peut-être de la traduction, le sens véritable d'un passage. C'est merveilleux, voyez, je ne dis pas qu'il faut se confier à toutes ces intuitions, mais méfions-nous parce qu'il peut y avoir des intuitions humaines. Mais si nous sommes humbles, saintes, nous attendons au Seigneur dans la confiance pour méditer la parole, il nous guide, il nous conduit vraiment au sens réel, exact, malgré la traduction. La traduction est utile, mais dépassant la traduction, il nous amène au contact même de la véritable pensée que l'Esprit a entendu exprimer. C'est lui qui écrit la Bible, l'Esprit, et c'est lui qui va nous l'ouvrir, bien sûr. Donc l'Esprit de vérité nous fera connaître la vérité et l'expérience de la vérité. Il nous fera faire l'expérience. Il nous conduira dans toute la vérité, il nous fera faire l'expérience. Il va nous conduire dans l'expérience de la vérité. Ce n'est pas tout d'avoir la vérité en tant que pensée juste en soi. Et nous ne restons pas, attention, nous chrétiens, nous ne restons pas dans le monde des idées. Nous ne restons pas. Nous voulons la bonne pensée, la juste pensée. Pourquoi faire? Pour vivre, pour agir, pour mettre en pratique. Par conséquent, il faut entrer dans l'expérience. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a révélé, mis en acte, mis en mouvement. Voilà, la vérité. On pourrait dire la vérité réellement, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ. L'âme en laquelle l'esprit de vérité viendra s'établir aura été soustraite aux influences profanes. Voilà encore un grand avantage. L'esprit nous conduira dans toute la vérité. Si vraiment nous sommes attachés à la vérité, j'ai déjà cité ce passage, ce verset des proverbes, acquiert la vérité et ne la vend pas. C'est-à-dire, ne t'en dépossède pas, garde-la bien, acquière-la. Et comment l'acquérir? Sinon par la foi, dans un esprit de désir, d'attente et d'humilité. Donc, l'âme sera soustraite aux influences profanes. C'est pourquoi le Seigneur dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir. Il ne le connaît pas, il ne peut pas le recevoir. Que faut-il alors pour recevoir l'esprit de vérité? Eh bien, le Seigneur nous le dit ici. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne le voit point et ne le connaît point. Alors, pour recevoir l'esprit de vérité, il faut avoir vu. Parce que le monde ne le voit point, n'est-ce pas? Il ne le connaît point. Il faut avoir vu le Saint-Esprit, je vais m'expliquer, il faut avoir vu et connu l'Esprit pour le recevoir. Vu, c'est-à-dire contempler, user de contemplation. En général, le terme grec qui est traduit par voir signifie, d'une façon beaucoup plus exacte, contempler. Par exemple, le Seigneur, en Jean 5, dit « Celui qui a vu le Fils et croit en lui a la vie éternelle. » A vu le Fils. On ne peut pas le voir, nos yeux de la chair, on ne peut pas le voir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les contemporains du Seigneur. Alors, celui qui a vu, celui qui contemple, qui peut contempler tout ce que la vérité va lui apporter concernant le Fils, et qui croit en lui, celui-là, à la vie éternelle. Il faut donc avoir contemplé et connu l'Esprit pour le recevoir. Je vais prendre un exemple dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà des gens, n'est-ce pas, et qui, on leur parle du Saint-Esprit, et ils disent qu'ils n'ont pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors il est évident que l'œuvre du Saint-Esprit ne pouvait pas s'établir en eux. Ils ne savaient pas, on ne leur avait pas dit, c'est pas, et vous savez que la foi nécessite l'ouïe de la parole de Dieu. S'ils n'entendent pas prêcher, comment croiront-ils, dit Paul dans les Romains? On ne peut pas croire si on n'a pas entendu. Et n'oublions pas que la parole est surtout faite pour être entendue, écoutée, entendue, plus et avant d'être lue. J'ai entendu. C'est pourquoi il faut vraiment être présent dans les rassemblements. Il faut entendre la parole de Dieu. L'entendre, par exemple. Il faut savoir qu'il y a un Esprit Saint. Il faut avoir cru à l'œuvre de l'Esprit par l'Évangile. L'Esprit de vérité sera en vous, dit le Seigneur Jésus, et nous savons que l'Esprit de vérité sera l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu selon Romains 8, versets 9 et 10. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, c'est l'Évangile de Jean qui nous le dit au chapitre 16. Et au verset 13, chapitre 16, verset 13, je relis, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne prend pas d'initiative. Pourquoi ? Mais, chers amis, sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus rien à... Ce qu'il faut, c'est annoncer, c'est diffuser, c'est répandre. Mais sans ça, tout est accompli. Par conséquent, le Saint-Esprit ne va pas prendre des initiatives en dehors de ce que le Fils a lui-même accompli. Nous aurons le temps, je pense, de voir cela dans un aperçu de doctrine, voir ce qui est plus particulier au Père, plus particulier au Fils et plus particulier au Saint-Esprit. Alors, vous conduira dans toute la vérité. Certains commentateurs ont dit, « Oh, ben ça signifie que le Saint-Esprit rappellera aux apôtres ce qu'ils ont entendu du Seigneur, afin que les apôtres puissent écrire la Bible. » Mais c'est pas le Nouveau Testament n'est pas écrit par des apôtres seulement. Le Saint-Esprit est écrit par Luc, par exemple, en partie, qui n'était pas apôtre. Il n'y a pas que des apôtres. C'est limité la portée excellente de cette parole du Seigneur. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le terme ici employé, d'ailleurs, signifie, le terme grec a pour sens, guider dans un chemin. Le Saint-Esprit vous guidera dans un chemin. Ça ne veut pas dire qu'il va vous rappeler parce que vous n'avez pas... Les apôtres ont perdu la mémoire, n'ont pas assez de mémoire, n'ont pas pu enregistrer tout, alors il va suppléer leur mémoire. Non, ben, il l'a fait peut-être, bien sûr, mais ce n'est pas ça. Il vous guidera dans un chemin. Il vous guidera par conséquent dans la voie du salut. L'Esprit fait entrer le disciple dans l'expérience. Je le disais tout à l'heure, non seulement dans la connaissance exprimée de la vérité, mais dans l'expérience de la vie nouvelle. La vérité, c'est Jésus, je le répète, c'est sa vie parfaite qui est un exemple à suivre, l'exemple à suivre. En somme, l'Esprit fera réaliser aux disciples réaliser pratiquement le plan divin dans la marche, dont la marche de Jésus est la révélation. Le disciple sera conduit donc dans une réalisation pratique du plan divin, et cela à l'exemple de la marche de Jésus lui-même. Il vous annoncera les choses à venir, c'est-à-dire, il va vous ouvrir l'esprit au plan divin futur, le plan des glorieuses destinées de l'Église. Naturellement, pas en dehors du champ de la parole de Dieu, de l'Écriture. l'Écriture est non seulement une grande source, mais l'Écriture assigne une limite à la révélation. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais le Saint-Esprit, dans le champ de ce qui est écrit, il y a beaucoup de choses. Alors là, le Saint-Esprit vous conduira dans la connaissance des glorieuses destinées de l'Église. Ainsi, pour que nous mettions réellement la parole de Dieu en pratique, pour que nous la rendions réelle et effective dans nos vies, chacun dans notre vie, l'action directrice du Saint-Esprit est indispensable. Et c'est ainsi que Paul dit dans l'Épître aux Romains ce que je vais vous lire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On pourrait renverser les choses. Tous ceux qui sont fils de Dieu, réellement, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, le Saint-Esprit mènera une action directrice qui nous est indispensable, absolument indispensable. Voyez, quel rôle continuel assume le Saint-Esprit nous concernant. En somme, tout vrai disciple utilise sa vie à reproduire et à continuer l'œuvre du Christ, guidé en cela et soutenu en cela par le Saint-Esprit. Il faut continuer l'œuvre de Christ. Continuer, reproduire sa vie. En somme, l'Église vit la vie de son chef, c'est-à-dire de celui qui est la tête. Elle est le corps, elle est Jésus, Christ est la tête, et l'Église continue, c'est-à-dire chacun de ses membres, n'est-ce pas, doit continuer la vie de Christ. Quel beau programme que ça. Continuer la vie de Christ. Et au fur et à mesure de l'avance dans la marche du disciple, le Saint-Esprit forme en lui, en même temps, la nature du Seigneur. Et le rend participant de la divinité du Seigneur. Ça, au fur et à mesure de la marche, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est immédiate, mais au fur et à mesure de la marche. Ce qu'il faut, c'est que parfois, par amour, nous appliquions, le terme est dans les Écritures, que nous pouvons nous appliquer au moyen de la foi, je dis bien, il ne s'agit pas des efforts de l'homme, au moyen de la foi, nous appliquer, la foi et de l'amour, nous appliquer, ce matin, notre frère disait que l'amour est un commandement, par conséquent, il faut que, par le moyen de l'amour, l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur. Bon, eh bien, il faut que nous nous appliquions vraiment à vivre la vie de Christ, à continuer la vie de Christ. Christ veut vivre encore sur cette terre, dans son corps, qui est l'Église. La conduite qui glorifie Dieu sera l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La conduite qui glorifie le Seigneur. Je vais faire une lecture rapide dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que, désirez le lait, n'est-ce pas? Le lait. Là, ici, l'apôtre Pierre ne prend pas ce terme de lait pour nous dire que nous n'avons qu'une nourriture élémentaire, qu'un aliment élémentaire. Non, le lait spirituel est pur. Bon, ça, il est libre d'employer ce terme et cette expression. Désirer comme des enfants nouveau-nés, c'est parce qu'il dit nouveau-nés qu'il parle de lait. Bon, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté, il faut goûter cela. Continuez de goûter que le Seigneur est bon. Alors là, vous allez croître, vous allez grandir. Nous sommes promis à la croissance. Mais à la croissance, toujours dans la ressemblance à notre maître et dans une vie qui ressemble à la sienne. Le Seigneur nous dit dans Jean 14, Jean 14, verset 18, « Il sera en vous, le Consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous. Il s'agit là de la venue du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Le passage suivant justifie bien cette explication. Le passage suivant, nous l'avons lu déjà, je l'ai lu tout à l'heure, je ne vais pas le relire, au verset 19. Verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous me contemplerez dans la vie. Vous me contemplerez à travers la révélation que vous apporte notamment et surtout les évangiles. Vous me verrez. Vous me verrez vivre. Le mot contempler, n'est-ce pas, ne lui donnons pas un sens extraordinaire, mais disons simplement, n'est-ce pas, que nous allons considérer. Dans les Écritures, ce verbe est employé aussi. Considérez quel est l'apôtre, n'est-ce pas, que Dieu vous a donné. Considérez-le. Considérez. Donc, il faut considérer le Seigneur comme dans la vie qui est la sienne maintenant, c'est-à-dire une vie au siècle des siècles. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et vous, vous vivrez aussi. Mais si vous regardez, nous ne pouvons pas, chers amis, marcher à l'exemple du Seigneur, le suivre et véritablement vivre de sa vie si constamment nous n'avons pas les regards sur lui. Ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Il faut que nous ayons les regards. Les regards de l'Esprit, nous avons parlé déjà de ce regard de la foi. Regard de l'Esprit. Il faut avoir ce regard sur lui. Alors, là, une petite observation d'ordre pratique. Prenons garde. La vie chrétienne, la vie d'Église, ça consiste pas à rester toujours confiné à des pensées, je dirais plutôt terre à terre, des pensées contingentes, dire tiens, on fait ceci, cela dans mon église, tiens, on marche comme ceci, tiens, dans mon église, il y a ceci, ou nous avons l'habitude de faire cela, etc. C'est pas ça la vie! Et peu importe le cadre, peu importe comment sont les chaises, peu importe la dimension de la salle. Non, ce qu'il faut, c'est considérer le Seigneur Jésus. Nous sommes ensemble, c'est ça l'Église. Merci, gloire à Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Il faut que nous soyons ensemble. L'Église, c'est un rassemblement. Bon, mais peu importe les dispositions d'ordre pratique, elles sont nécessaires, bien sûr, mais c'est pas ça qu'il faut considérer. C'est pas ça. Il faut considérer le Seigneur. Alors, le Seigneur ressuscité, glorifié, et sa vie sera celle du disciple. C'est ce que nous dit le Seigneur. Vous vivrez aussi. Je vis, car je vis au siècle des siècles, et vous, vous vivrez aussi. Je vous vivrai parce que je vis. Et parce que nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous sommes même un seul et même esprit. Votre esprit d'homme réveillé est lié à mon esprit, à moi, dit le Seigneur. Nous sommes ensemble, un seul et même esprit, une seule et même plante. Voilà. Par conséquent, je vis, vous vivrez, vous aussi. Au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » La relation de Jésus avec son Père. Ah, voilà un grand sujet, ça. La relation de Jésus avec son Père revêt une importance immense, immense. Comme d'ailleurs le Seigneur le précise dans le chapitre 17 de Jean, c'est-à-dire dans le cours de la prière sacerdotale. En ce jour-là, c'est-à-dire quand l'Esprit viendra, c'est-à-dire la Pentecôte, alors en ce jour-là s'ouvrira la connaissance profonde d'une réelle relation avec Jésus. Les apôtres n'ont pas eu le temps de nous arrêter sur la Pentecôte elle-même, parce qu'on ne peut pas absolument tout faire dans le cadre d'une semaine, mais disons que je suis absolument convaincu. C'est une chose qui a été, d'ailleurs, qu'il a fallu débattre, parce qu'il y avait des contradicteurs, et des contradicteurs auteurs de livres. Les apôtres étaient convertis avant la Pentecôte. Ils étaient convertis. Le Seigneur Jésus dit bien qu'ils avaient reçu, ils avaient connu que Jésus, leur maître, était sorti de Dieu. Ils avaient reçu les paroles de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ils étaient convertis. Mais attention, l'Esprit n'était pas venu. L'effusion de l'Esprit n'était pas encore réalisée. Alors ils restaient dans la prière. Ils avaient reçu ce souffle de Jésus pour pouvoir prier pendant tout le temps d'attente de la Pentecôte. Alors, en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, s'ouvrira la connaissance profonde d'une réelle relation avec Jésus. Ils n'avaient pas cette relation réelle avec le Seigneur. Ils ne l'avaient pas. Ils avaient bien eu, et ils étaient toujours restés d'ailleurs, avec cette impression, je dis impression profonde, qu'ils avaient gardée, bien sûr, de leur vie aux côtés du Seigneur Jésus pendant 3 ans. C'est vivre 3 ans, jour et nuit, on peut dire, n'est-ce pas, aux côtés du Seigneur Jésus, vous savez, on en gardait quand même quelque chose, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, ils savaient ça, mais ce n'était pas une relation intérieure. Elle n'était pas, cette relation n'était pas faite par un lien intérieur d'esprit à esprit. La relation entre Jésus et Dieu va être donc révélée et connue. Et cette relation, je ne peux pas en parler trop longuement maintenant, mais c'est un sujet très intéressant, très intéressant. Parce que le Seigneur Jésus va, lui, toujours mettre l'accent sur le fait que le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père, et nous sommes un, dit le Seigneur. Le Père et moi, nous sommes un. Ne sais-tu pas, Philippe, que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Nous sommes un. Dans le chapitre 17 de Jean, n'est-ce pas? Ça, c'est une affirmation centrale. Nous sommes un. Or, cette relation éternelle du Père et du Fils engendre dans le champ de la rédemption et de la diffusion du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, engendre une relation qu'on peut appeler seconde, pour nous expliquer, pour s'expliquer, une relation corollaire, on pourrait dire, en utilisant un mot mathématique, une relation corollaire, une relation de même nature, de même mot que la relation du Père et du Fils. La relation du Père et du Fils étant donnée l'œuvre de la rédemption faite entre-temps, la relation du Père et du Fils va engendrer une relation de même force, de même nature entre le Fils et les disciples Et alors, ça, il faut tout de suite que nous le lisions dans l'évangile, dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. La voici, c'est au verset 20, lisons au verset 20 du chapitre 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire c'est pas seulement pour mes contemporains que je prie. Attention, il y avait à attendre tous ces petits amis qui allaient se rassembler à Perguillon, par exemple, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Toutes les générations de croyants, n'est-ce pas ? Tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. On cherche un tas d'histoires concernant l'unité de l'Église. Mais elle est faite, l'unité de l'Église. C'est parce que vous n'y croyez pas que vous ne la voyez pas. Mais elle est faite, n'est-ce pas ? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, toutes les générations de vrais croyants, afin que qu'eux aussi soient un en nous. Et bien entendu, un en nous, c'est-à-dire le Père et moi. Un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est-à-dire que l'Église sera révélée au monde, sera vue du monde, de par cette relation que j'ai appelée seconde des membres de l'Église avec Jésus et avec le Père. Alors la relation, voyez, l'idée que je veux exprimer, la relation du Père-Fils engendre une seconde relation, une autre relation qui est de même eau, la même, comme dit le Seigneur, la même, c'est pas une relation affaiblie, moins importante, non, c'est la même, une autre relation entre les membres de l'Église et le Père et le Fils. Voilà. Parce que le Père aime le Fils, parce que le Fils aime le Père, parce qu'ils sont un, les membres de l'Église. Et Dieu et Jésus-Christ sont un aussi. C'est le grand produit, le magistral produit de l'œuvre de la rédemption suivie de l'effusion du Saint-Esprit. C'est magnifique, c'est absolument glorieux. Alors, je voudrais encore lire ceci, au verset 21. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, verset 21, nous étions au chapitre 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Alors Jude, là, place une observation. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, voilà, si quelqu'un m'aime, ça c'est voilà une chose, un fait qu'il faut. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ça va ensemble. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Nous, c'est le Père et le Fils. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Moi, j'ai toujours relu ce verset avec vraiment toujours la même joie, la même reconnaissance. Autre connaissance, on veut louer le Seigneur, il faut lire un verset comme ça. On ne peut pas manquer de louer le Seigneur. La base de la réalisation de cette étonnante et merveilleuse promesse, c'est l'observation suivie des commandements du Seigneur. Ne cherchons pas d'autre voie d'accès à la promesse que cette fidélité-là, qui est une fidélité d'ordre pratique. Garder la parole, c'est l'observer. Une fidélité d'ordre pratique. Celui qui, dit le Seigneur, c'est-à-dire tout homme qui s'établit dans cette mise en pratique effective parce qu'il aime, et l'amour et la mise en pratique, c'est, ça marche ensemble, ça va ensemble, l'un par l'autre. Bon, alors tout homme qui s'établit dans cette mise en pratique effective est l'homme qui aime le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur, au verset 24, donne le a contrario, le contraire, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Alors celui-là, bien sûr, le « nous viendrons en lui », ça, c'est pas pour lui, ça. Ce n'est pas pour lui. Donc, celui qui s'établit dans cette mise en pratique est l'homme qui aime le Seigneur. Aucune démonstration, aucune exaltation ne remplaceront l'humble et persévérante fidélité de l'amour. Un amour sans fidélité, c'est pas l'amour, ça. Ça ne peut pas être l'amour. Pas possible. Même sur le plan humain, hein, si on disait de quelqu'un, d'un couple, par exemple, le mari, oh, il aime bien sa femme. Il aime bien sa femme, mais il s'en va au dehors et il fait toutes sortes de choses qui sont contraires au maintien de l'union. Hein. Bon, alors, il aime, ça veut rien dire, ça. Hein. Non, s'il aime vraiment sa femme, il lui sera fidèle. Il lui sera fidèle. Eh bien, par conséquent, l'amour et la fidélité vont ensemble et ne peuvent pas être séparés. Je dis qu'aucune des exaltations, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de saintes exaltations. Mais ce n'est pas l'exaltation qui va nous amener à être vraiment bénéficiaires de cette promesse. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas l'exaltation, si elle est produite vraiment par l'esprit, bon, c'est très bien, tout dépend de la richesse émotionnelle des uns et des autres. Il y a des gens qui ne sont pas tellement portés à l'émotion, ils sont comme ça, d'autres au contraire sont assez rapidement mise en mouvement, leur émotion est mise en action, ils sont émotionnels, bon, ils ont une vie affective, plus à fleur de peau, bon, alors, ils peuvent manifester plus d'exaltation, bon, c'est pas mal si ça vient de l'esprit, c'est très bien, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre vraiment possesseurs de cette promesse. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Nous sommes ici au centre du message de vérité. Le message de vérité. Il n'y a pas de vie sans union avec Jésus et par Jésus avec le Père. Il n'y a pas de vie véritable. Il n'y a pas de vie sans amour. La vie sans amour, de même, nous l'avons vu, les manifestations spirituelles, en admettant qu'elles aient vraiment lieu, les manifestations spirituelles chez quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est rien du tout, c'est du vent, c'est de l'airain, c'est du bruit pour rien. Donc, nous sommes au centre du message de vérité. Cet amour réel par la fidélité d'observation du commandement produit un véritable miracle. Ça produit le miracle. Nous cherchons souvent des miracles que nous pouvons voir, que nous pouvons saisir, qui ont un côté merveilleux et spectaculaire. Mais ce miracle-là n'a peut-être pas ce côté spectaculaire. Mais n'est-ce pas un grand miracle, en effet? Je me révélerai à lui. Je me révélerai à lui, n'est-ce pas? Je relis. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ou je me révélerai à lui. Je me ferai connaître à lui. Je préfère, je me révélerai. Je me révélerai à lui. C'est un véritable miracle. Ainsi aura-t-on la révélation intérieure de Jésus qui nous est nécessaire pour être aussi un témoin de Jésus. Ce ne sont pas des enthousiasmes ou des émotions provoquées qui procurent cela, mais c'est une révélation dont Jésus a le libre arbitre. Il révèle le Père à qui il veut. À qui il veut, de même que le Saint-Esprit accorde les dons comme il le veut. Eh bien là, n'est-ce pas, Jésus révèle le Père à qui il veut. Voilà l'œuvre grandiose du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur Jésus s'est révélé à quelqu'un, eh bien, la promesse, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors quand nous considérons cela, nous viendrons à lui, le Père et moi. Mais précédemment, le Seigneur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il sera avec vous, il sera en vous. Bon, alors, le Saint-Esprit en vous, et puis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est ce que nous appelons la Trinité. Alors donc, voyez, dans cette présence intérieure, n'est-ce pas, dans cette présence intérieure, c'est le Dieu unique, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui est là dans sa totalité. Dans sa totalité. En somme, si on peut employer ces expressions, sont plus ou moins heureuses, mais enfin, disons que pour notre salut, il a fallu que le Fils vienne faire une œuvre sur la terre, donc se détache. Il a fallu qu'il abandonne la gloire qui était la sienne auprès du Père, qu'il se dépouille, qu'il paraisse comme un simple homme. Bon. Et il est venu, en somme, dans une chair humaine telle que la nôtre. Il a fallu ça, c'était le Fils qui faisait cela. Bon. Et puis, lorsque l'homme de foi, l'homme, le pécheur repenti, homme de foi, vraiment a saisi le fruit de l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit l'a sanctifié, comme nous l'avons vu. Le Saint-Esprit l'a régénéré, la régénération. Il a reçu un cœur nouveau, il a été régénéré. Et régénéré, dans le grec, c'est la palingénésia, c'est-à-dire le nouvel engendrement, la nouvelle naissance. Les termes sont dans le grec, la palingénésia, c'est deux termes accolés, deux mots accolés qui signifient nouvel engendrement. Eh bien alors donc, le Saint-Esprit a provoqué ce nouvel engendrement. Bon, alors, le Fils qui a été vu, qui a été cru, bon, dont l'œuvre est intervenue, le Saint-Esprit qui a communiqué le fruit de cette œuvre, et puis alors, ensuite, c'est la promesse, nous viendrons à lui, mais sous une condition, c'est que il y ait un amour réel, c'est-à-dire une mise en pratique des commandements. Et si cette mise en pratique, donc, est vraie, alors le Saint-Esprit la Trinité se referme, si je puis dire. C'est-à-dire que ce n'est plus d'un côté seulement l'Esprit, d'un autre côté la voix du Père ou la décision souveraine du Père, l'amour du Père, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui en esprit. Par conséquent, Père, Fils et Saint-Esprit, voilà le Dieu qui s'est refermé. Quand le salut, donc, a été obtenu, donné, ce que l'on possède en soi, souvent nous disons l'Esprit de Christ avec des textes, quoique Paul dise bien l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, Christ lui-même, n'est-ce pas ? Où il nous dira Christ, c'est l'Esprit. Mais la présence que nous avons en nous, c'est la présence du Dieu unique. C'est la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Donc, qu'est-ce que vous voulez, c'est magnifique, ça. C'est magnifique, ça. L'œuvre du Saint-Esprit, et voilà que nous possédons Dieu. Nous sommes vraiment le temple. Alors là, nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen.